Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Quatrième et dernier volet de notre série consacrée à l'éducation nationale et à quelques cas d'école. Dans la seconde partie du XXe siècle sont apparus en France des philosophes de premier rang, dont la pensée et les concepts sont étudiés dans les universités et écoles du monde entier. Sartre, Merleau-Ponty, Deleuze, Foucault sont sans doute les figures les plus éclatantes de cette nouvelle constellation philosophique. La philosophie a évidemment sa place dans l'enseignement secondaire, et c'est d'ailleurs cette discipline qui inaugure les épreuves du baccalauréat. L'enseignement de la philosophie doit faire face actuellement à une société française en pleine mutation et à de nouvelles données culturelles, linguistiques et socio-professionnelles qui peuvent le marginaliser. Tout de suite, un documentaire de Michel Vignard, réalisé par Vanessa Nadjar et intitulé « La philosophie au lycée ».
C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de ma suggestion, de mes précepteurs, je quittais entièrement l'étude des lettres, et me résolvant de ne chercher plus d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même ou bien dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et, partout, à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient, que j'en puisse tirer quelques profits. Car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de...
Parfois avec les élèves, moi je leur dis, mais au fond, si vous comprenez rien, c'est un problème, mais si vous comprenez tout, c'est pas normal non plus dans un cours.
Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir en clair mes actions et marcher avec assurance en cette vie.
La philosophie au lycée, Michel Vignard, Vanessa Nadjar.
Hey, Platon, viens là.
Bah, au début, je vous avoue que j'étais un peu déçue, en fait, parce que j'attendais de la philosophie quelque chose d'hyper ouvert et qu'on nous apprenne à penser, en fait. Et après, j'ai compris qu'on nous apprenait des visions du monde, des philosophes, et que, par conséquent, on devait utiliser ces visions du monde en argumentant, tout ça. Mais une fois qu'on a fait abstraction du fait que ce soit quand même quelque chose d'académique, parce que c'est une matière enseignée par l'éducation nationale, tout ça... C'est hyper enrichissant, mais je pense que ça vient aussi de ma prof, qui était une bonne prof.
Il faudrait savoir si le prof de philosophie est un professeur comme les autres.
Professeur comme les autres.
Christian Rabhi, professeur de philosophie au lycée Jean Jaurès de Montreuil.
Comme ça, au débeauté, oui, c'est un professeur comme les autres du point de vue de son statut. Il est agrégé ou certifié, il enseigne le même nombre d'heures que les autres, à une heure de décharge près, mais que d'autres professeurs peuvent avoir pour les heures de première chaire, puisqu'il enseigne uniquement donc en terminale. Du point de vue de la matière, c'est évidemment pas comme les autres, puisque c'est la seule matière qu'on va faire au lycée en dernière année, et donc c'est une matière qui fait que la curiosité des élèves est ouverte au début de l'année, pas forcément toute l'année, mais au moins au début de l'année, ce qui donne une certaine période de grâce, parce que tout le monde se demande ce qu'on va faire en philosophie, qui est une matière, c'est assez exceptionnel d'ailleurs, hein, qui est une matière qui apparaît seulement donc comme ça en fin de cycle, et qui en plus c'est une matière qui peut pour certaines classes être déterminante pour le baccalauréat. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas regardé de la même manière, et sa matière n'est pas regardée de la même manière. Comme professeur, je vois pas de différence notable entre le professeur de philosophie et le professeur d'économie ou autre.
L'un des enjeux de l'année de philosophie ou du cours de philosophie de manière plus générale, c'est de faire entendre aux élèves que la philosophie est une discipline comme les autres, c'est-à-dire qui peut s'enseigner, qui doit être travaillée, qui suppose un certain nombre d'apprentissages et de compétences. C'est-à-dire que la question est intéressante, d'ailleurs on ne demanderait pas si le professeur de physique est un professeur comme les autres. Je crois que cette question reflète le fait que, effectivement, la philosophie dans l'histoire de l'éducation nationale en France occupe une sorte de position charnière, de, à la fois couronnement, pivot, supplément d'âme de notre système d'enseignement. Et tout ça est finalement relativement embarrassant quand les élèves arrivent, parce que du coup, il y a une déception qui est à la mesure de l'attente que l'institution a constituée. Donc il faut aménager cette déception. ensuite bricoler dans les parenthèses, mais ça je crois que tous les enseignants bricolent dans les parenthèses, c'est-à-dire fabriquent du sens en mettant de l'essentiel dans l'indirect. De ce point de vue-là, je ne crois pas que la position de la philosophie soit particulière. Mais elle l'est institutionnellement, historiquement, c'est sûr. Et ça fait partie de nos conditions de travail. Ça.
J'en entendais parler par les plus grands, par ceux qui en avaient fait auparavant. Et donc il y en a beaucoup qui n'aimaient pas, qui disaient bon, bah, on parle d'un sujet pendant des semaines, ça reste sur le même point, c'est ennuyant, on s'ennuie, tout ça. Donc j'appréhendais, mais bon, cette année ça s'est bien passé, c'était des sujets assez intéressants. Et donc c'est facile à apprendre et à se mettre dedans quoi, pour en parler.
Bah, au départ, en fait, on se pose beaucoup de questions. On se demande d'abord qu'est-ce que c'est. On a beaucoup d'appréhension par rapport à cette matière. On se demande qu'est-ce qui va tomber. Je me posais plus la question de qu'est-ce que j'aurai l'année prochaine plutôt que est-ce que je vais aimer ou est-ce que je ne vais pas aimer. C'est surtout ça les questions. Et après...
Bah, moi, j'en avais déjà entendu pas mal parler par mon frère qui, lui, adore ça. Et donc, lui, il était là, tu vas voir, c'est super, tu vas adorer. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment aimé... Je trouvais que c'était un peu compliqué et j'avais l'impression qu'on forçait à croire ce que disaient tous les auteurs. Donc au début, j'aimais pas trop la philosophie.
Quelle que soit la manière d'introduire, qu'on fasse ça de manière très académique, qu'on fasse ça par des intermédiaires de films, de photos, de commentaires, de textes. Enfin bon, on peut choisir des tas de manières d'introduire la philosophie, hein, puisque comme je pense qu'elle n'a pas vraiment d'objet spécifique, c'est vrai qu'on peut jouer sur beaucoup de champs et de beaucoup de pratiques. Vraiment, je pense qu'au bout de 2-3 semaines, les élèves nous prennent pour des dingues, parce qu'on se met à mettre en question... Je ne sais pas si c'est des certitudes, parce que si on pense que des certitudes, c'est le fait d'être certain sans le savoir, la certitude est tellement forte qu'elle n'est pas verbalisée, mais qu'elle est intégrée comme une partie de soi. Alors, si ça, la certitude, c'est ça, effectivement, on bouscule ces certitudes-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on met une dimension à la pensée, qui est une dimension historique, une épaisseur conceptuelle, qui effectivement est obligée de bousculer l'immédiateté de jeunes gens et de jeunes filles qui ont 17 ou 18 ans, 19 ans, et qui donc n'ont pas réfléchi sur ces problèmes-là. Ils les ont. C'est pas qu'ils sont dans l'opinion, c'est qu'ils ont simplement leur âge, pour la moyenne en tout cas, ils ont leur âge, ils ont leur mode de vie, ce que la société qui les environne leur propose comme manière à la fois de penser et de voir. Et nous, on arrive là-dedans, effectivement, comme dans un champ de quilles, hein, ça c'est vrai. Donc globalement, oui, je pense qu'on est vu comme des dingues. Après, ça change.
D'avoir une nouvelle matière, je pense que c'est un avantage, parce qu'on commence tous à zéro. On commence à avoir les mêmes bases, tous.
Moi, je pense que cette matière, elle s'adapte à chacun, puisque c'est, comme il a dit, on repart à zéro. Chacun a les mêmes bases. Et puis c'est selon sa réflexion personnelle, en fait. Donc... Personne ne peut être défavorisé par la philosophie. Et comme il a dit, on apprend beaucoup de choses. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque on en savait beaucoup, mais on ne les développait pas nous-mêmes, en fait. Donc la philosophie, moi, personnellement, ça m'a appris à développer ce que je savais déjà en ajoutant d'autres connaissances.
Quel est, selon vous, l'apport spécifique de l'enseignement de philosophie à la formation secondaire des élèves ?
Ça, c'est une question difficile. Il y a une chose qui, en tout cas pour moi, me tient à cœur dans l'enseignement que je mène depuis des années, c'est de bien faire comprendre aux élèves que dans l'enseignement de la philosophie, tout est objet de réflexion. C'est-à-dire que il y a un moment régulièrement où les élèves, notamment en terminale L, c'est évident, mais dans les classes, dans les autres classes aussi, les autres classes posent plus le problème de l'utilité de la philosophie. Mais en terminale L, la question du sens est importante, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Et à chaque fois, j'ai toujours tendance à répondre, à les faire réfléchir sur le fait qu'ils ne se sont jamais posé la question sur aucune autre matière, de savoir qu'est-ce que c'était, ils en ont fait, et puis voilà. Et qu'est-ce que c'est que les mathématiques ? C'est une question qu'ils n'ont jamais posée à leur professeur de mathématiques. Ils en ont fait, ils ont pratiqué. Donc moi, j'ai toujours tendance à les ramener donc, à cette interrogation qu'ils n'ont jamais posée aux autres profs et qu'ils me posent à moi, et je ne suis pas sommé de répondre. Et puis d'un autre côté, j'insiste toujours sur le fait que si on regarde le programme de philosophie, en fait, on peut quasiment tout mettre. C'est vrai qu'il y a un programme, bon, de programme assez limite, mais en réalité, les notions se recoupent les unes les autres. Il y a plutôt des exclusions, disons, de certains aspects, mais qui qui rentre par la fenêtre à cause d'une autre notion. Donc en réalité, moi j'insiste surtout sur le fait que c'est l'enseignement de la philosophie pour moi, c'est que la philosophie n'a pas d'objet au sens spécifique du terme, donc en fait tout devient objet de réflexion. Et c'est l'occasion pour ces élèves, en tout cas pendant un certain nombre d'heures de la semaine, de réfléchir sur tout et n'importe quoi. Et que ça devienne une espèce de curiosité un peu généralisée. C'est en tout cas un moyen de faire en sorte qu'on puisse parler de tout. Voilà.
Nicole Grataloup, professeure au lycée Jean Jaurès de Montreuil.
Moi, je dirais que de plus en plus, j'ai l'impression que ce qui me paraît le plus important, c'est le travail sur les mots et donc sur les concepts. Parce que je trouve qu'il y a un problème de maîtrise de la langue chez les élèves, surtout dans les séries technologiques, qui est surtout lié au fait que les mots sont vagues, sont confus, sont ambigus. Et je trouve que le travail qu'on fait en philo, c'est justement d'essayer de clarifier le vocabulaire courant qu'on utilise. Par exemple, ce matin, que regret et remords, ce n'est pas la même chose, que contrainte et obligation, être contraint, être obligé, ce n'est pas la même chose. Et que donc, leur donner un petit peu des armes pour mieux penser, hein, puisque... Il n'y a pas de pensée sans langage, mais de savoir peut-être résister à la confusion langagière qu'il y a autour de nous, quoi, où les mots ne veulent plus rien dire, où tout est mélangé. Donc pour moi, c'est vraiment devenu le travail essentiel, quoi.
Je trouve qu'il y a une contradiction particulière dans notre enseignement, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut éveiller la curiosité. Et d'autre part, il y a la préparation à l'examen.
Éric Assentefeul, professeur au lycée Montebello de Lille.
Et on est en gros la seule discipline à devoir remplir cette double tâche, enfin, qui est quand même en elle-même déjà contradictoire. Et je trouve que ça, c'est quelque chose vraiment qui est extrêmement nuisible. Parce que moi, finalement, l'expérience que je trouve la plus douloureuse avec les élèves, c'est ce décalage qu'ils peuvent avoir entre le plaisir qu'ils peuvent ressentir quand ils accèdent vraiment à un travail de problématisation et après l'absence de résultats effectifs en termes de notation ou d'examen. On voit qu'il y a des cours où les élèves sentent qu'il se passe quelque chose, ils saisissent des choses, ils sont intéressés, mais en fait, ils ne comprennent pas tout. Ils ne sont pas capables de mettre en œuvre immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe, mais en même temps, ce n'est pas traduisible ou exprimable scolairement comme ça sur le moment. Et en général, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est les meilleurs cours, parce que c'est là où on sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'affect, enfin, on est dans quelque chose de tout à fait intéressant. Et du coup, le problème, c'est qu'il faudrait que ça puisse mûrir doucement, parce que on ne peut pas comme ça faire ça, et puis la semaine suivante, bon bah ça y est, vous l'avez assimilé, et puis donc maintenant on passe à autre chose. Ce qui fait que moi je suis gêné, mais parfois avec les élèves, moi je leur dis, mais au fond, si vous comprenez rien, c'est un problème, mais si vous comprenez tout, c'est pas normal non plus dans un cours. Or, c'est gênant de dire ça, bon, on peut dire ça peut-être à l'université ou avec des gens qui sont vraiment dans la philo, mais avec une classe de terminale, c'est gênant de dire ça, et pourtant quelque part, je trouve que c'est vrai.
Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette phrase? Pardon? Oui? Voilà. Oui, un truc qui se fait comme ça. Presque naturellement. Voilà. Dès qu'on s'interroge sur le langage, c'est qu'on parle. On est toujours dedans. De toute façon, on est dedans. On se souvient, nos plus vieux souvenirs sont des souvenirs où on maîtrisait déjà le langage.
On ne prend pas assez la mesure du nombre d'objectifs qu'on impose au professeur de philosophie de résoudre sur une année.
Alain Lhomme, professeur de classe préparatoire au lycée Féderbe à Lille.
C'est absolument considérable. J'en vois au moins 7. Hein, et je ne suis pas sûr d'être exhaustif. D'abord, il faut accueillir la curiosité d'un public nouveau qui se trouve confronté pour la première fois à la philosophie. Cette curiosité, il faut l'encourager, la cultiver, répondre à une demande, ou bien l'éveiller, et éveiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas, donc ne pas la décevoir. C'est pas peu de choses. Ça engage une posture pédagogique et pas seulement didactique, hein, pédagogique, qu'on va mettre en place en début d'année. Et on a souvent la nostalgie en fin d'année de ces débuts d'année. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, on avait éveillé quelque chose, soi-même, on s'était rééveillé à la chose, et on découvre en fin d'année, au moment où on arrive au bac, que bah, tout ça est bien loin, et que peu ou prou, eux, ils sont tombés dans le bachotage, et nous-mêmes, dans une forme de léger découragement qui fait que ces moments initiaux sont bien loin. Et la chance du professeur de philosophie, c'est que finalement, n'enseignant que sur une année en général, au moins l'année suivante, il se retrouve avec un nouveau public, où il peut céder à l'illusion du recommencement. Bon. Deuxième chose, dans le prolongement, on va devoir eh bien, leur apprendre à réfléchir, à examiner, à analyser. Et ça aussi, ça demande des exercices particuliers, un style d'interrogation dans la façon de mener son cours, une façon d'interroger, de s'interroger soi-même, ou d'interroger une question à voix haute, pour que le sens de l'interrogation se développe. Ça n'est pas une petite chose à mettre en place, parce qu'un enseignement reposant sur l'interrogation, ça leur est profondément étranger, et c'est en général pour eux assez déstabilisant. J'ai le souvenir d'une remarque d'élève il y a une quinzaine d'années, me disant c'est très, très difficile de vous suivre et de vous accompagner parce que vous êtes en interrogation permanente et nous, on aurait besoin de choses fermes, de choses qui soient calées, qui soient claires, nettes, sur lesquelles on pense qu'on peut faire fond, des choses dont on pense que c'est celles-là qu'il faut savoir et qu'au moins, on les saura. Donc ça aussi, il faut le gérer.
J'ai envie de partir d'une phrase de Tocqueville qui dit il y a deux mots qui sont corrélatifs, c'est l'incertitude absolue et le doute absolu. Et les élèves sont souvent dans cette alternative-là, c'est-à-dire soit ils savent, ils sont certains, ils n'ont pas de doute, soit au contraire ils disent on ne sait pas, puis de toute façon c'est relatif, et puis de toute façon chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Et donc voilà, il n'y a rien à dire. Et je trouve que le travail de problématisation, c'est de les faire sortir de cette alternative-là pour essayer de formuler une question en disant que voilà, on ne sait pas tout, mais on ne sait pas rien, et entre les deux, on peut se questionner. Et sortir du relativisme des opinions qui sont une espèce d'indifférence, finalement, où tu penses ce que tu veux et ça ne me regarde pas et j'en ai rien à faire, à, voilà, on peut se poser la question ensemble, quoi. Et donc, du coup, les certitudes, on peut les interroger. Ça ne veut pas dire qu'on va y renoncer, ça ne veut pas dire qu'on va les mettre de côté. Moi, j'ai bien envie de taper un peu sur cette idée de la philosophie qui fait remettre en question les opinions, qui fait entrer dans le savoir, etc. Bon. Mais simplement se dire, voilà, on peut peut-être discuter des choses dont on n'a pas l'impression habituellement qu'on peut en discuter, soit parce qu'on est certain d'une réponse, soit parce qu'on n'en sait rien et qu'on ne veut pas en parler.
Moi, j'ai une distinction qui marche assez bien avec eux. Empiriquement, c'est la distinction entre une difficulté et un problème.
Mathieu Potte-Bonneville, professeur de classe préparatoire au lycée Jean Jaurès de Montreuil.
Les élèves disent « j'ai un problème », je leur réponds que c'est une chance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont que des difficultés. Et le problème étant, et la problématisation consistant justement à élaborer la difficulté de telle manière qu'elle puisse recevoir, sinon une réponse, du moins un traitement, une sorte de traitement. Je crois que c'est cette identification de la difficulté qui permet de sortir de ce balancement permanent, effectivement, entre certitude et relativisme. Certitude et relativisme s'appliquant généralement aux mêmes objets à 2 secondes de distance. C'est-à-dire que le même objet, généralement, donne lieu à une certitude dans l'ordre de l'attitude et à un relativisme très prudent dans l'ordre de l'opinion. C'est-à-dire on n'en sait rien, mais quand même, c'est comme ça. Et les élèves ont beaucoup de mal à mettre en rapport leur relativisme qui, en un certain sens, est une sorte de précaution démocratique, je crois, très largement. C'est-à-dire qu'il consiste à dire que les opinions sont bonnes parce que toutes les opinions sont respectables, et puis leurs attitudes qui sont, elles, extrêmement tranchées. Donc arriver à identifier une difficulté morale, un dilemme, un scrupule, etc., ça permet quand même de déverrouiller largement ce jeu de bascule-là. Toute la question après étant de savoir comment en traiter et comment l'élaborer. C'est là où le travail avec les mots se révèle extrêmement intéressant.
Troisième chose, eh bien il faut les former à la dissertation. Ensuite, à l'explication du texte, qui pose des problèmes tout à fait spécifiques, qui d'ailleurs mobilise des moyens d'écriture là, pour le coup, plus délicats. Ça ne s'improvise pas, il faut chaque année reformer les élèves à cette technique. Ensuite, il y a le fameux programme, hein, qui n'a jamais vraiment été allégé et qu'on veut maintenir chroniquement indéterminée. Il y a aussi l'obligation de les initier quand même à quelques auteurs et quelques pensées. On n'ait pas le sentiment qu'après un an de philosophie terminale, il n'ait quasiment rencontré. Il ne s'agit pas au fond qu'un philosophe et que la pensée de quelques philosophes. Parallèlement à la dissertation, il y a bien sûr l'art de l'analyse et l'art de l'argumentation. Parallèlement à l'explication de texte, l'art de la lecture. C'est-à-dire que le professeur de philosophie est obligé de prendre en charge la question de la lecture. On se rend compte que la question de la lecture n'est pas réglée quand les élèves arrivent chez nous. Il y a d'abord qu'à demander à un élève de lire à voix haute un texte. On s'aperçoit qu'un grand nombre d'entre eux ne peuvent pas lire un texte à voix haute. Quant à vérifier qu'ils ont vraiment appréhendé le sens, ça c'est... Pour le coup, peut-être que le niveau ne baisse pas, mais en revanche, ce type de compétence est en régression. Ça tient peut-être à une transformation de la technique de l'explication dans les disciplines littéraires, où ils sont plus aptes à repérer une métaphore, une tournure de style, une classe d'arguments, mais quant au sens du texte, eh bien finalement, il est volatilisé, et les professeurs de lettres que je fréquente en classe préparatoire sont quelquefois stupéfaits de voir à quel point, effectivement, ils ont acquis une technicité dans le repérage de singularité dans le texte, mais qui passe complètement à côté du sens du texte. En philosophie, on ne peut pas passer à côté du sens du texte. Et là encore, il y a donc une tâche qui nous est propre. Puis il y aurait encore, et encore une dimension, qui est être à la hauteur d'une attente qui comporte une dimension de réflexion sur soi et de qu'est-ce que je vais faire de ma vie propre. On ne peut pas non plus considérer qu'un an de cours de philosophie mettrait entre parenthèses le type d'interrogation portant en gros sur l'art de vivre, comment vivre, des questions qui peuvent paraître, comment dire, naïves, hein, sur le sens de l'existence. Mais un professeur de philosophie pourrait penser qu'il n'a pas complètement satisfait à sa tâche. D'une certaine façon, il n'a pas fait droit à ce type d'attente. Vous voyez, bon, je ne suis pas sûr d'en avoir trouvé 7, je croyais en avoir 7 sur mon papier, mais c'est déjà pas mal, et c'est beaucoup, et c'est considérable. Et tout cela avec une classe qui peut avoir 30 ou 35 élèves, et où il va falloir en plus essayer d'individualiser son intervention. Et le drame, malheureusement, c'est que l'institution, eh bien, abandonne, ça je le dis en toute clarté, l'institution abandonne chaque professeur à lui-même.
Bon, pour moi, la dissertation, ça a été assez dur au début. Enfin... J'ai des bonnes qualités de rédaction, mais bon, on n'avait pas vraiment compris les méthodes de rédaction pour la dissertation, parce que c'était la première fois qu'on l'apprenait. C'est sûr qu'il y a une différence avec l'oral, puisque l'oral, on s'exprime comme on le veut, et sur une feuille, on ne peut pas s'exprimer pareil. Donc, il faut faire des efforts de rédaction, il faut faire des efforts sur les réponses, il faut vraiment réfléchir, et c'est pour ça qu'on écrit, on repense, on réfléchit, et puis moi, je mets beaucoup de temps au brouillon pour revoir mes phrases, tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas pareil qu'à l'oral.
Mon expérience dans les classes, dans les séries technologiques.
Mathieu Pot-Bonneville.
D'abord, c'était que, quand même de constater que tout se passe bien jusqu'à la première dissertation. Parce que, à la première dissertation, quelque chose se casse dans la relation d'enseignement, qui, à mon avis, est très clairement liée à la charge sociale de l'écrit, et au fait que c'est l'écrit et la capacité à rédiger qui décident de l'orientation des élèves avant. C'est-à-dire que, confronté des élèves de séries technologiques à une dissertation en terminale, c'est quand même leur expliquer qu'ils vont refaire ce qui les a conduits dans une voie qu'ils n'ont pas forcément choisie et qui ne les valorise pas forcément. Donc là, je crois qu'il y a une charge propre à l'écrit, une espèce de normes, une politique de l'écriture qui est très durement vécue et qui oblige à retisser quelque chose avec eux après.
D'après vous, la dissertation a-t-elle encore un sens aujourd'hui ?
Moi, je pense qu'elle a encore un sens. Alors après, il faut vraiment beaucoup travailler dessus.
Nicole Grataloup.
Mais il me semble que la difficulté principale des élèves pour la dissertation, ils sont habitués à, lorsqu'on a une question, on trouve une réponse. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans beaucoup de disciplines. Or, nous, on leur demande, face à une question, non pas de trouver la réponse, mais d'élaborer le problème, de réfléchir au problème, d'envisager plusieurs hypothèses, de confronter ces hypothèses et de construire un raisonnement qui se tient et qui se suit avec tout ça, qui soit rigoureux, où il y ait des distinctions conceptuelles, etc. Mais je trouve qu'une fois qu'on a dépassé ça, c'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est pas de vous précipiter sur une réponse, mais d'essayer de réfléchir à la question, bah, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de défauts, etc., ils arrivent quand même à comprendre ce qu'on attend d'eux, quoi. Et donc, il me semble que ce n'est pas complètement négatif, alors que ça soit l'épreuve d'examen, ça c'est autre chose, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pas un exercice purement rhétorique et purement vain, il me semble. Hein. Il me semble que ça a quand même une valeur formatrice, ne serait-ce que parce que ça oblige à confronter des points de vue. Voilà. Je me souviens d'un élève, une fois, avec qui, bon, une classe où j'essayais d'expliquer 1000 fois de suite et à chaque fois de manière différente ce que c'était que la dissertation, et il ne comprenait toujours pas. Bon. Et puis un jour, il y a un élève qui me dit « Ah, mais alors, dans la dissertation, il faut faire comme si on était deux. » Et je dis « Ben voilà, c'est ça, c'est ce que je n'ai pas réussi à vous dire depuis le début, c'est ça. Voilà, il faut faire comme si on était deux, c'est-à-dire il faut considérer que la réponse n'est pas évidente, elle n'est pas acquise, et qu'on va débattre à deux, le deuxième étant imaginaire. » Enfin, on a à jouer les deux rôles soi-même, à être les deux énonciateurs. Et voilà. Il y a des moments comme ça où on voit que la prise de conscience de ça, ça ouvre des possibilités de pensée qu'il n'y avait pas avant.
Autre chose que je voulais dire sur la dissertation, c'est...
Mathieu Pot-Bonneville.
Pour moi, la difficulté la plus redoutable de l'exercice, c'est son caractère complètement organique. C'est-à-dire le fait que le même exercice mobilise des compétences de registres entièrement différents les unes des autres. Il faut savoir faire une analyse de concept, il faut savoir restituer une référence, savoir faire une transition, il faut savoir réélaborer en première personne ce qu'on a trouvé dans le texte d'un auteur, etc. Moi, plus ça va, plus ça me fait penser aux compétences d'un bon joueur d'échecs ou d'un bon joueur de go. C'est-à-dire ces jeux qui supposent, chez le bon joueur, à la fois la maîtrise d'un calcul local très précis, et puis en même temps, savoir ce que c'est qu'une bonne ouverture. J'ai jamais compris ce que c'était qu'une bonne ouverture aux échecs, donc j'ai jamais bien joué aux échecs, ni au go. Mais des choses qui sont d'ordre global, spatial, stratégique, le rapport tactique-stratégie. Bon. Ben, dans la dissertation, il y a à peu près la même difficulté à articuler ce que les élèves savent faire au local, et puis la manière dont ça va s'intégrer dans cette grande unité organique qui noie finalement, souvent, les compétences précises des élèves.
Il y a une pratique que moi j'aime beaucoup, c'est le fait de faire des dissertations orales, c'est-à-dire de mettre des sujets de dissertation au tableau et de prendre toutes les réponses des élèves, de les écrire au tableau et de les faire disserter ensemble, quelles que soient les réponses.
Christian Rabhi.
Et donc en définitive, au fur et à mesure, il y a une espèce d'élaboration à la fois contradictoire et aussi d'élaboration hein, dans les formules qui font que d'un seul coup, la pensée n'est plus la pensée de quelqu'un devant sa feuille blanche, mais devient la pensée de tas d'individus qui se rencontrent et qui vous se rendent compte que bah, le voisin vient de dire quelque chose qui oblitère totalement la logique de ce qu'il vient de dire lui précédemment. Et puis, quel argument a-t-il ? Bah, aucun argument, il se rend compte qu'il s'est totalement planté, qu'il n'a pas réfléchi. Pour moi, ce type d'exercice est un type d'exercice qui est en fait une préparation stratégique à la dissertation. Ils n'acquièrent pas beaucoup de connaissances dans ce type d'exercice, mais par contre, ils acquièrent des stratégies qui sont presque des stratégies guerrières, hein, je dirais, c'est-à-dire pour arriver à contrer telle ou telle opinion ou tel ou tel auteur qui leur paraît vraiment insupportable, ils essaient de trouver quelque chose. Et donc, ça fait un dialogue qui n'est pas du tout un dialogue socratique, alors on est vraiment très très loin de ça, mais qui fait une élaboration progressive de la stratégie qui est propre à la dissertation.
Sur l'oral et l'écrit, c'est vrai qu'il y a des élèves qui mobilisent des capacités de réaction, de finesse, vraiment, dans leur réaction orale, y compris pour avoir raison et pour avoir le dernier mot, mais qui sont capables d'aller assez loin dans la finesse, dans la subtilité, pour avoir le dernier mot. Ce qui a des avantages, il y a là, à mon avis, deux véritables compétences. Mais ça n'est pas un dialogue. C'est-à-dire que, pour autant, la relation que les élèves vont entretenir entre eux dans une classe, quand ils cherchent à avoir raison, va être aussi loin que possible du dialogue philosophique tel qu'on l'entend dans la tradition. Donc c'est pas plus facile, mais ça se laisserait sans doute davantage élaborer qu'un écrit face auquel un certain nombre d'élèves sont purement et simplement perdus.
Comment vous appréhendez l'épreuve du baccalauréat ? 4 heures, temps limité, pas de documents, avec des sujets qu'on ne connaît pas du tout ?
Oui, enfin, les documents, on les a pas, mais il n'y a pas de documents, mais de toute façon, on connaît quand même les thèses des auteurs, plusieurs citations, donc on a quand même un panel de documents, disons, sur nous, qu'on a avec nous-mêmes. Et
Non, moi, c'est pas l'une des épreuves qui m'inquiète, parce que justement, c'est pas comme en économie où le sujet, il y a des choses obligatoires qu'il faut dire, où si on les dit pas, ben, c'est sûr qu'on a raté quelque chose. Là, on peut dire ce qu'on veut, et donc ça, c'est plus facile, je pense, que d'autres matières.
Ce que j'aime bien le jour du bac, c'est que c'est quand même, je pense, le seul jour où il y a autant de monde en France qui fait de la philo. Donc moi, ça me... Je ne sais pas si les élèves sont vraiment dans la même joie, mais moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est assez plaisant quand même comme idée.
Le philosophe qui arrive.
Ah ben lui. Le descendant de Platon.
Hé, hey, Platon, viens là.
Ouais, Bicca, alors t'as réussi ou pas?
Comment?
Toi, le grand philosophe,
tu vas t'en aller où là? T'as fait quel sujet?
L'intellectuel de gauche.
Alors? Elle, l'intellectuel du PCF, t'en es où là?
Il faut qu'il s'en mette là quand même.
T'as fait quoi?
J'ai pris le travail, est-il.
Et toi, t'as marqué.
Que gagnons-nous à travailler?
Bravo!
Et toi, t'as marqué rien, je suis sûr.
Salut, t'as prêt?
Je suis sûr que t'as dit.
Ouais, j'ai mis Lucie Rabelais, ensuite j'ai développé en marquant mon prénom et mon nom.
Peut-on en finir avec les préjugés? J'ai fait trois parties, donc une thèse, antithèse et synthèse. J'ai parlé dans la thèse que les préjugés, ils pouvaient tout à fait se terminer, qu'on pouvait trouver des moyens pour les anéantir. Dans mon antithèse, j'ai démontré que les préjugés étaient indestructibles, et dans ma synthèse, j'ai un peu comparé les préjugés que les hommes pouvaient émettre, et contrairement aux animaux qui ne peuvent pas en faire. J'ai cité Descartes avec « Je pense donc je suis », j'ai cité Socrate avec « Les mythes de la caverne », et j'ai cité... c'est tout. Donc Descartes et Socrate.
Alors que gagne-t-on à travailler?
Que gagne-t-on à travailler? En résumé, on va dire la liberté.
Des sous.
Non, on sort un petit peu, là, on a un petit peu mal à la tête, on n'a plus trop envie d'en parler, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi,
on gagne à travailler, on gagne de l'argent. En fait, c'est un moyen pour accéder à une fin, le travail. C'est ça qu'il faut dire.
Une survie dans le milieu hostile de la nature, on va dire. On apprend peu à peu à la connaître et finalement à acquérir une certaine liberté. Bon, voilà.
C'est pas une condition inhérente à la...
Une citation, je sais pas, toi t'as fait quoi?
Moi j'ai dit le travail c'est la santé.
Alors j'en ai bien pris une, elle est extraordinaire. C'est Aristote, c'est tout ce qui devient par quelque chose et à partir de quelque chose. Elle est pas mal celle-là. Et j'ai mis, c'est parce que l'homme a une main qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est intelligent qu'il a une main. C'est d'Aristote, ça veut dire que l'homme il utilise sa main intelligemment. C'est pour ça qu'il est au-dessus des animaux. Et...
S.
Voilà. S.
S.
S. S. Enzo, t'as choisi quoi?
Bon, moi j'ai pris troisième sujet, étude de texte.
Donc voilà.
Vous pouvez m'en lire quelques extraits de votre texte?
Attendez, c'est possible. Il faut retrouver ça. Alors, un passage intéressant. Première phrase. La validité des règles de justice telles qu'elles prévalent entre les individus n'est pas entièrement suspendue entre les sociétés politiques. Voilà, en gros, tous les princes se targuent de prendre en considération les droits des autres princes et certains, cela ne fait pas de doute, sans hypocrisie. Voilà. Après le reste, c'est un peu toujours pareil, c'est pas très intéressant. Et toi, t'as pris quoi?
Alors, le premier sujet, c'était « Toute prise de conscience est-elle libératrice ?» Le deuxième, c'est « Les œuvres d'art sont-elles des réalités comme les autres ?» Et le dernier, c'est un commentaire d'Aristote, extrait de l'éthique à Nicomaque.
Vous êtes dans quelle section?
En littéraire. J'ai pris le sujet 2 sur l'art. C'était l'art...
Est-elle une réalité comme les autres?
L'œuvre d'art est-elle une réalité comme les autres?
Alors vous en avez dit quoi?
Non, qui a été perçu par un sujet pensant, donc c'est ce qui lui conférait le fait que ça soit une réalité et qu'on lui donnait donc, toute son essence de réalité parce qu'on la pensait, mais qu'elle elle échappait au domaine du réel, enfin elle échappait pas du concret, mais qu'en deuxième partie, j'ai mis qu'elle échappait à toute réalité parce que c'était pas son essence que de... se confronter au réel, qu'elle avait un certain nombre de. Bah, qu'elle échappait à des règles logiques et qu'elle s'adressait tout d'abord à la sensibilité. Alors que quand on se confronte au réel, on est armé de notre rationalité et qu'on est limité avec notre capacité à savoir. Et que l'œuvre d'art, c'est l'expression de l'absolu, de l'infini et pas la réalité. La réalité, on la connaît que partiellement. Et qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, en troisième partie, j'ai mis qu'il fallait quand même démystifier l'œuvre d'art parce qu'elle est le fruit d'un travail de longue haleine et que c'est trop facile de dire que c'est le génie ou une intervention divine et que, en gros, c'est ça.
Vous espérez quelle note ?
Je sais pas, honnêtement, je sais pas, parce que c'était pas très clair. Je crois que l'expression n'était pas assez claire. Je pense que j'aurai la moyenne, quoi. Sans taper au-dessus des 13, c'est sûr.
T'as pris quoi là ?
J'ai pris le commentaire, je voulais prendre le même sujet que toi.
C'est la première fois que je fais une dissertation de l'année. Hein.
Mais non, on en a déjà fait.
Ouais, non, mais bon.
Mais attends, mais les deux sujets de dissertation, on les avait plus ou moins traités en classe. Il aurait fallu qu'on relise
le travail,
nos cours.
Je suis con, mais moi j'ai relu vite
le travail. C'est la première dissertation qu'on avait fait de l'année.
Ouais, le travail c'était la première dissertation de l'année.
T'as réussi ?
En méthodologie là.
Putain, moi je sais pas, je vais voir.
J'ai peur d'avoir raconté que de la merde. Que des choses pas très pertinentes.
Le constat est sans appel. De moins en moins d'élèves s'orientent vers la filière littéraire. En 1968, 35% des candidats inscrits au baccalauréat passaient un bac philo. En juin 2007, ils étaient seulement 12% dans ce cas. La situation a désormais atteint un seuil catastrophique et partout en France, les classes littéraires ferment. Il suffit de préciser que l'horaire de philosophie d'une terminale L représente la moitié d'un service de professeur agrégé pour deviner les conséquences de cette désaffection. Quand on supprime deux terminales, un poste de professeur de philosophie disparaît. Il est de plus en plus fréquent de voir les professeurs compléter leur service dans un autre lycée et parfois une autre discipline que la leur. Pour ceux qui restent dans leur établissement et continuent à enseigner la philosophie, le nombre de classes augmente et celui des copies à corriger explose. La philosophie qui jouait naguère le rôle de couronnement des humanités est devenue une discipline parmi d'autres, et c'est aujourd'hui une discipline en crise.
J'ai dit cogito, je l'ai mis, je le passe à chaque fois.
J'ai eu 6 toute l'année. Si j'ai 6, c'est parfait.
Je pense que j'aurai la moyenne, quoi. Sans taper au-dessus des 13, c'est sûr.
J'aimerais avoir la moyenne, mais je sais que j'aurai pas la moyenne, je vais avoir 5 ou 6.
J'ai peur que le maintien à toute force de la dissertation comme exercice fondamental de philosophie au bac ait sa part de responsabilité dans la crise de la série littéraire. Parce que lorsque vous avez un exercice qui devient difficile à évaluer, où l'écart type, c'est-à-dire non pas la moyenne, mais l'écart entre les copies, a tendance à se resserrer entre, disons, 8 et 12, bah, les familles et les élèves ayant quand même souvent des stratégies qui sont des stratégies consistant à faire la différence. C'est vrai qu'elle est dans une série où, si on est très bon, on risque d'avoir 12. Et si on n'est pas très bon, on risque d'avoir 8. Compte tenu de ce que sont les logiques des familles aujourd'hui dans le passage au lycée, à mon sens, ça entraîne une crise de la filière elle-même. C'est-à-dire que la philosophie ne permettant pas de faire la différence entre des élèves très compétents, qui peuvent être beaucoup plus travailleurs que les autres, etc., en tout cas, l'image de la discipline étant celle-là dans le public, ben les familles vont se tourner vers des filières plus sélectives. Je crois que nous pâtissons et du renforcement du discours sur la sélection, qui est quand même devenu le sens commun de tous les usagers du système d'enseignement, et dans le même temps, de la difficulté qu'a la philosophie d'opérer cette sélection pour elle-même et parmi ses propres élèves.
Je pense que les professeurs de philosophie portent une responsabilité, et en particulier, ils portent une responsabilité au sens où la terminale L n'a été défendue sérieusement et solidement et avec passion, ni par les profs de langue, ni par les profs de lettres, ni par les profs de philo. C'est ça qui est stupéfiant. Je ne comprends pas que dans un pays avancé, civilisé, avec une riche tradition culturelle, on laisse fiche le camp une filière qui avait de sérieux atouts, puisque, comment dire, c'est la filière langue, c'est la filière art plastique, musique, enfin, toute la dimension esthétique qu'on a beaucoup développée, danse qu'on a développée, c'est la filière littéraire au sens étroit du terme, et c'est la filière philo. eh bien que cela s'affiche le camp, c'est absolument inconcevable. Mais je crois que ça tient pour partie au fait que les professeurs de français ne se battent pas démesurément pour une classe terminale dont ils estiment qu'ils n'ont peut-être pas toute la place qu'ils aimeraient avoir. Quant aux profs de philo, trop souvent, ils se sont contrefichus de ce qui se passait en première et ils se contrefichent de ce qui se passe en lettres parce qu'ils continuent de regarder les collègues littéraires d'un petit peu haut. Hein. On souffre quand même d'un défaut dans cette corporation. Ça me paraît un peu obsolète, cette vision de l'enseignement de philosophie en relation d'un maître à un disciple, mais elle ne l'est pas complètement pour une partie du corps hein, qui souffre, je dirais, du grand nombre de ce que j'appelle les petits maîtres. Il continue d'y avoir dans la corporation un nombre de petits maîtres qui ne sont d'ailleurs pas des gens nécessairement âgés et qui considèrent que sortis de l'enseignement de philosophie, finalement, il n'y a rien qui soit vraiment digne d'être considéré. Eh bien, que ces gens-là coulent avec le navire, je le regrette pour la philosophie, mais je ne le déplorerai pas pour ce que j'appelle les petits maîtres.
Moi, juste la chose que je voulais ajouter, c'est par rapport au... Il me semble aussi qu'il y a une modification dans le rapport au savoir, c'est-à-dire que...
Éric Assenteufel.
Finalement, la valeur sociale a changé. Et donc, ces filières qui étaient nobles pour un certain type de classe sociale, finalement, le sont beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est un petit peu passé d'une période où finalement la culture scolaire était vraiment un marqueur de classe, à une période dans laquelle il y a une sorte de marchandisation généralisée du savoir qui fait que finalement on professionnalise au maximum. Et donc là, je pense qu'il y a une évolution, enfin qu'il y a même une évolution un peu globale du système capitaliste, mais qui pèse très lourd en fait sur le rapport au savoir. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la même sociologie effectivement maintenant du rapport à ce type de culture que disons il y a 30 ans par exemple.
Très juste.
Alain Lhomme.
Il y a aussi un phénomène très troublant, c'est que dans une espèce d'utilisation pernicieuse des conclusions et des travaux des sociologues, de Bourdieu en particulier, on ose aujourd'hui dire que les disciplines qui supposent un fort capital culturel sont socialement classantes et que par conséquent, on ne doit pas, outre mesure, les soutenir. Ce sont des discours qui se tiennent. On arrive à cet effet stupéfiant qui est que si on arrive à démontrer un jour que la philosophie, par exemple, était socialement classante, eh bien, il faudrait qu'une école, soi-disant démocratique, fasse moins de philosophie. Il y a un discours très étrange, là. Et je ne le rêve pas. Ce n'est pas un fantasme ou un leurre. C'est-à-dire qu'il faut cesser de privilégier des disciplines qui sont socialement excessivement classantes. Donc à partir de là, on a une espèce de curieux cercle vicieux qui est que tout ce qui est culturel, donc qui repose sur des valeurs de gratuité, d'investissement à fond perdu et qui n'est pas immédiatement traductible en termes de débouchés, supposerait soi-disant des acquisitions préalables qui seraient déjà socialement classantes et par conséquent les deux discours convergent pour finalement mettre en péril effectivement une filière qui exige peut-être un investissement différé. Qui exige peut-être qu'on accepte que ça ne puisse pas se traduire rapidement en perspective professionnelle assignable.
Moi, il y a très longtemps que je n'ai pas eu d'élève de L, donc je ne peux en parler que finalement comme citoyen extérieur et en même temps avec un regret, parce qu'évidemment, l'attente quand même d'un prof de philo en terminale et qui a vocation à le rester, c'est, et l'espérance, c'est d'avoir des classes de L. Je pense que ce qui devient critique, c'est peut-être le rapport classe générale, classe technologique. Ce que je constate, c'est que finalement, les canons et les exercices et les difficultés qu'on rencontre en classe technologique finalement, préfigure très souvent les difficultés qu'on rencontre dans les classes générales. Et en ce qui me concerne, dans le lycée, alors peut-être par contamination, dans le lycée où je travaille, je me rends compte que très souvent, je suis amenée, pour résoudre des problèmes dans mes classes générales, à appliquer des stratégies que j'emploie déjà dans mes classes technologiques. Et donc, moi, je dirais qu'il y a peut-être une sorte d'élargissement d'extension finalement de la logique professionnelle et enfin technologique et professionnelle à l'ensemble des filières, et ça a d'abord frappé la L pour toutes les raisons que vous avez dites, et c'est peut-être en train de frapper la S parce que faire de la recherche fondamentale n'a quasiment pas de sens pour la majorité des élèves.
En 2001, un nouvel enseignement a été instauré en terminale pour compléter la formation juridique des élèves, le CJS, enseignement civique, juridique et social. L'heure hebdomadaire de CJS est l'occasion pour beaucoup de professeurs de compléter leur service de philosophie. Dès lors, un dilemme se pose à eux. Comment assurer cet enseignement nouveau qui ne donne pas lieu à examen ? L'annexer purement et simplement pour en faire une heure de philosophie politique, bien utile pour boucler un programme démesuré, ou bien s'en emparer pour développer des projets originaux ? Michel Verjade, professeur au lycée Valentine Labbé à la Madeleine, près de Lille.
J'ai accepté de faire le CGS dans une terminale S. D'une part, j'ai quand même présenté le programme, et il se trouve qu'il est, il est très explicitement philosophique. Hein, c'est-à-dire que, en effet, la description des institutions est réservée aux profs de première, et c'est souvent les profs ou d'histoire ou parfois même d'économie qui le traitent, parce qu'il y a un aspect statistique, géographique, descriptif vraiment. Tandis que, en effet, en terminale, il y a 8 notions. Alors, je ne les ai pas tout à fait à l'esprit, mais c'est vraiment des concepts de philosophie, justice, loi, liberté. Alors, qui sont référées toutes à des problèmes contemporains et à la question européenne. Donc cette année, je me suis saisie de ça avec d'autant plus de délices qu'il y avait l'élection. Et donc j'ai pensé que ça serait vraiment l'occasion de faire un projet qui en effet n'était pas noté et qui me permettrait de récupérer en effet aussi un petit peu d'heures pour faire de la philosophie politique de manière différente. Alors ça s'est passé assez bien au début, hein. C'est merveilleux, je crois qu'il dit, on fait de la pédagogie jusqu'à la Toussaint et après on fait le programme. Bon, alors moi j'ai tenu un peu plus, j'ai réussi à faire de la pédagogie, on va dire, jusqu'à Pâques. Alors en présentant les notions sans faire un cours magistral, en effet, alors j'avais organisé le travail de mes élèves d'une part autour d'une revue de presse. Alors très gentiment, en général, ils ont acheté le journal. J'ai fait un courrier aux parents, puisqu'il fallait que à la fois l'équité, la neutralité et puis la pluralité des points de vue soient garanties. Alors ça a été très intéressant pour d'autres raisons. C'est qu'on s'est rendu compte que toute l'année, la presse se cassait la figure et que donc les titres étaient de plus en plus les uns et les autres menacés. Bon, ça a été au fond une occasion de réflexion in vivo, hein, sur pourquoi c'est quand même très important d'avoir une presse pluraliste. Et... Alors, la première déception, c'est que souvent, ils achetaient le journal, mais qu'ils ne l'avaient pas lu. Bon, donc, ça a été aussi l'occasion de voir que, finalement, le journal auquel ils sont le plus souvent, spontanément, dont ils sont le plus souvent porteurs, ce sont les gratuits. Et j'ai essayé de lancer un sujet sur, à votre avis, d'où vient cette gratuité, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous distribue comme ça de la presse gratuite. Bon, je n'ai pas pu leur faire un travail d'enquête. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout sensibilisés comme on peut l'être, nous, adultes. Bon, et ensuite de ça, j'ai fait appel à des députés, les députés de la circonscription où se trouve mon lycée, donc un de droite, un de gauche, pour la même raison, établir l'équilibre. Alors ça s'est passé en deux temps. Il y a eu premièrement une grande rencontre au lycée des deux députés que les élèves ont interrogés. Donc ils ont organisé la table ronde et ils ont fait... donc il se trouvait que c'était à peu près au moment de... les questions ont beaucoup porté à la fois sur le service qui était prévu pour la jeunesse, là, ce service, ce rétablissement d'un service civique, et puis la question du logement, parce que c'était en pleine histoire des Don Quichotte. Donc voilà, il y a eu une heure et demie de débat, de rencontre. Bon, les députés ont d'ailleurs très très bien joué le jeu et... il y avait une deuxième phase, c'est que le député nous recevait à l'Assemblée, donc il y a eu une visite à l'Assemblée. Bon, alors quand je disais on fait de la pédagogie jusqu'à à Pâques, bon, c'était un peu ça, parce que finalement, ma déception, c'est que ça ne m'a pas permis quand même de traiter la philosophie politique. C'est-à-dire que le projet a eu lieu, les élèves ont lu, il y a eu ces petits échanges au fur et à mesure, quand on voyait soit qu'ils n'avaient pas lu, soit que ça ne les intéressait pas de lire, soit, ça renverrait au point de qu'est-ce que lire, hein, le fait qu'ils préféraient les gratuits. Donc il y a eu une sorte d'instruction civique appliquée, si on veut. Il y a eu l'aspect relationnel, la contrainte de recevoir le député, il y a eu l'aspect plaisir, aller à l'Assemblée, mais finalement, je ne suis pas du tout sûre que ces élèves pensent mieux la question politique ou la question du politique désormais. Bon, néanmoins, je ne me sens pas prête à dire je convertis purement et simplement cette heure en philosophie politique et je renonce à ce type de projet. Je pense que l'an prochain, j'aurai encore à reprendre cette heure et je continuerai à essayer de la faire vivre de cette manière, mais... voilà, c'est, au fond, pédagogiquement, c'est toujours la même question. Où on fait un projet, où on fait le programme, où on donne aux élèves à vivre quelque chose et à s'investir, où on les forme de manière théorique. Et je pense que l'écart entre les deux est toujours douloureux et reste. Hein. Et à la fin de l'année, là, j'avais un peu l'impression que les élèves m'en voulaient quasiment, parce que finalement, les notions, je ne les ai pas traitées. Bon, cette heure, je pense, a été un lieu, alors certains détracteurs diraient un lieu de vie, un lieu de débat. Je ne suis pas sûre que ce soit un lieu, ça a été un lieu de formation, véritable.
Je voudrais savoir si vous vivez, vous éprouvez une tension entre le temps professionnel, le temps de présence en classe, devant les élèves, le temps de préparation, le temps de correction des copies, et puis un temps que j'appellerais plus intellectuel, qui est le temps de la recherche, le temps de la lecture, le temps de la formation personnelle et le temps de sa propre curiosité.
Oui, c'est un sacré problème, ça. C'est-à-dire qu'il est quand même extrêmement difficile à la fois de bien préparer ses cours, de corriger les copies, d'avoir une activité intellectuelle autonome, et puis éventuellement d'autres vies à côté. Effectivement, c'est un gros problème. Et...
Moi, je pense que c'est une des choses, enfin, en ce qui me concerne, une des choses les plus douloureuses, parce qu'en effet, on se rend compte que chaque année, enfin, dans le temps des 8-9 mois dont on dispose, si on veut absolument... entreprendre des lectures nouvelles, se consacrer, y compris par exemple suivre des cours, ou repenser même entièrement par exemple un domaine. Enfin, je ne sais pas si on veut faire un cours d'épistémologie. Et c'est exactement lié avec la question du temps de tout à l'heure. On se rend bien compte que la classe va toujours plus vite, et alors là pour le coup trop vite par rapport au temps lent de la lecture et de la recherche. Bon. Et que ça devient donc très difficile. Alors, bon, je pense qu'il y a eu plusieurs, pour moi, plusieurs temps, justement. Il y a eu le début, quand on vient juste de sortir de la fac, où moi, je m'accrochais, où j'essayais vraiment de suivre des cours. Je suivais des cours, bon, et là, ça devient rapidement invivable, parce qu'en effet, on devient beaucoup trop vieux par rapport aux étudiants qui sont là, et on se sent... Et peut-être même on sent que c'est plus le moment d'être étudiant, il faut passer à autre chose. Donc j'ai eu ce premier temps. Ensuite, bon, en ce qui me concerne, j'ai tenté de faire une thèse que je n'ai pas. Enfin, j'ai fait mon DEA et je me suis réinscrite plusieurs années pour cette thèse que je n'ai pas pu boucler, faute de temps. Enfin, faute de pouvoir concilier justement toute l'énergie que demandait un travail de thèse et puis l'énergie que prend la classe et à laquelle j'ai jamais voulu. Sacrifier ce qui me semblait nécessaire. Bon. Et puis maintenant, je suis rentrée peut-être dans un troisième temps, c'est-à-dire que je fais des années ou des semestres. Alors il y a des années Nietzsche, il y a des semestres Heidegger, et où j'essaye vraiment alors de cloisonner et avec le même bénéfice que ce que disait Eric tout à l'heure. C'est-à-dire que je me rends compte que en faisant une lecture totalement indépendante, pour rien, pour le plaisir, j'arrive d'abord souvent, je me rends compte que j'arrive à la mobiliser en classe sans l'avoir prévu. Et que justement, voilà, je ne suis plus dans une logique d'examen ou de bachotage pour moi-même. Et ça me donne une grande liberté finalement. Je lis des choses qui en effet ne sont destinées à rien, à servir à rien et qui ne seront pas validées. Mais qui me nourrissent. Et ça, je pense que c'est très, très important.
Et ça tient à une propriété quand même, je crois, de l'enseignement de philosophie. C'est qu'il n'y a pas en philosophie de frontière nette entre ce qui serait élémentaire et ce qui est d'un haut niveau d'exigence. Je ne crois pas qu'on puisse fixer le moment où on n'est plus dans l'élémentaire et par conséquent qui peut s'enseigner tranquillement, et puis ce qui serait vraiment de la recherche. Ça circule concernant l'un à l'autre. Et en fait, on s'aperçoit qu'en ayant quelquefois mené un travail relativement sophistiqué sur une notion, une question, ça permet justement d'éclairer l'élémentaire et d'être quelquefois bien meilleur en étant élémentaire. Hein, mais parce qu'on sait exactement quels sont les enjeux, on les maîtrise, on sait très bien jusqu'où on va... porter l'examen de la difficulté, mais c'est ça qui est infernal. Ça qui est infernal, c'est qu'il n'y a jamais de frontière nette et que c'est un travail sans fin.
Je puis vouloir une éclipse, ou simplement un beau soleil qui sèche le grain, au lieu de cette tempête grondeuse et pleureuse. Je puis, à force de vouloir, espérer et croire, enfin que les choses iront comme je veux. Mais elles vont leur train. D'où je vois bien que ma prière est d'un nigaud. Mais quand il s'agit de mes frères les hommes, ou de mes sœurs les femmes, tout change. Ce que je crois finit souvent par être vrai. Si je me crois haï, je serai haï. Pour l'amour, de même. Si je crois que l'enfant que j'instruis est incapable d'apprendre, cette croyance écrite dans mes regards et dans mes discours le rendra stupide. Au contraire, ma confiance et mon attente sont comme un soleil qui mûrira les fleurs et les fruits du petit bonhomme. Je prête, dites-vous, à la femme que j'aime des vertus qu'elle n'a point, mais si elle sait que je crois en elle, elle les aura. Plus ou moins, mais il faut essayer, il faut croire. Le peuple méprisé est bientôt méprisable. Estimez-le, il s'élèvera. La défiance a fait plus d'un voleur. Une demi-confiance est comme une injure. Mais si je savais la donner toute, qui donc me tromperait? Il faut donner d'abord. C'est un texte de Alain.
C'était Sur les docks, la philosophie au lycée, un documentaire de Michel Vignard. Avec Nicole Grataloup, Eric Assentefeuil, Alain Lhomme, Mathieu Pot-Bonneville, Christian Rabi, Michel Verjade, Léa Buton, Laura Grignon, Wissam Kenjou, Anne Balanda et les candidats au baccalauréat du lycée Rabelais à Meudon. Un merci particulier à Madame Grisard, proviseur du lycée Jean Jaurès à Montreuil-sous-Bois, à Monsieur Bouchot, proviseur du lycée Fédherbe à Lille, à Thérèse Moreau et Renaud Neuville. Prise de son, Olivier Berotte, Michel Gassic, Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Vanessa Nadjar.
C'était Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Demain à 16h, Sur les docks vous propose un nouveau rendez-vous, Champ Libre, qui sera diffusé chaque vendredi. Champ Libre vous invitera à découvrir des sujets rarement évoqués sur notre antenne et confiés à de nouveaux producteurs. Le sujet de Champ Libre sera différent de la thématique de la semaine. Ce sont Denis Soula et Joël Spindel qui inaugureront demain ce nouveau rendez-vous avec un documentaire réalisé par Nathalie Battus et intitulé « Le rugby, sport d'homme ». Jeu d'enfant. Vous écoutez France Culture, il est 17h. C'est maintenant l'heure du débat. Bonjour Tara Schlegel et Brice Couturier. L'antenne est à vous et à vos invités pour l'émission Du grain à moudre.